Bonjour, bienvenue dans le podcast Communication de campagne. Je suis Gaëlle Lettonnet, sa fondatrice. On se retrouve une fois par mois pour parler de ruralité. Comment faire de la ruralité un allié de développement ? Développement économique, mais aussi social, sociétal, environnemental et culturel. Hors des grandes villes, des grandes agglomérations. Pour cela, je vais à la rencontre de celles et ceux qui font de la ruralité une force. Ensemble, on aborde les solutions pour créer du lien, désenclaver pour faire société. Mon intention avec ce podcast est de découvrir des réalisations inspirantes qui ont fait du territoire rural un facteur clé de leur succès. Je les interroge sur l'angle de la communication, qui fait partie des conditions essentielles pour la réussite d'un projet. Si tu apprécies ma démarche, tu peux en parler autour de toi, partager, écrire un commentaire ou donner une note. Si tu veux me contacter, écris-moi à comdecampagne@gmail.com. C'est qui le patron ? Tu connais ? La brique de lait, bleue, avec sa marque inscrite en gros, sans autre illustration. Même si tu ne bois pas de lait, tu as forcément entendu parler de cette marque ou tu l'as aperçue en faisant tes courses au supermarché. Derrière cette petite brique et ce nom de marque interpellant, il y a une histoire incroyable. Incroyable. Il faut se rendre compte que lorsque cette marque de lait est sortie, il y avait bien longtemps qu'aucune nouveauté n'était venue chahuter ce segment de produit. Un véritable défi relevé par des outsiders face aux puissantes industries laitières. Cette marque s'est faite une place dans les lignières de packs de lait sans pour autant mettre en péril les autres. Cette histoire, elle a été écrite par des gens de bonne volonté, qui se sont unis pour sauver des exploitations agricoles et surtout des familles du désastre économique. Des gens sans grands moyens financiers, mais avec des valeurs et des convictions en bandoulière, persuadés qu'un autre modèle de distribution et de communication est possible. Des gens prêts à s'investir, à investir toute leur énergie, tout leur temps pour expliquer leur démarche, le fonctionnement d'une ferme agricole de vaches laitières, l'économie du secteur, l'intérêt de conserver des agriculteurs dans les campagnes, le produit, sa production, sa qualité et donc son prix légèrement plus élevé que d'autres briques de lait. Une épopée avec du suspense, des situations angoissantes et des rebondissements imprévus. Une histoire vraie, à dimension humaine, qui se passe en zone rurale. Je te propose d'aller à la rencontre de Martial Darbon. Son nom ne te dit sans doute rien et pourtant, il est l'un des acteurs historiques, l'un des piliers, sinon le pilier de cette histoire, sans qui elle n'aurait pas existé. Martial habite dans l'Ain. Je suis allée chez lui, dans sa maison, construite après qu'il ait vendu sa ferme, pour prendre sa retraite avec Martine, son épouse. Martine que je tiens à citer, car elle a eu un grand rôle, comme des milliers de femmes d'agriculteurs. Elle est dans l'ombre de son mari, mais sans elle, Martial n'aurait pas pu mener cette aventure. La ferme, il faut qu'elle tourne, jour et nuit. Le vivant n'attend pas. Pas de bouton pause. Elle est un soutien moral également. À eux deux, ils ont réalisé quelque chose d'unique. Avant d'écouter notre entretien, cet enregistrement, il n'est pas parfait. Ma prise de son s'est faite un petit peu trop vite. Tu constateras quelques saturations au niveau du son. Je m'en excuse d'avance. La rencontre avec Martial, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Bonjour Martial.
Bonjour Gaëlle.
Je suis ravie de te rencontrer et je te remercie de bien vouloir m'accueillir chez toi, à Jaïa.
Je suis ravi aussi, hein, parce qu'on est d'abord dans une belle région, hein, la Bresse, c'est assez sympa, moi j'y suis bien. Et puis, parler de la ruralité, c'est toujours assez, assez sympathique, surtout quand on l'apprécie.
Alors avant de démarrer notre interview, j'aimerais que tu décrives l'endroit où tu me reçois, où nous sommes.
Moi, je suis un nouvel arrivant depuis 2019 à Jaïa. Voilà, on a transmis l'exploitation, donc on est venu habiter ici. On cherchait une maison et puis on trouvait que des maisons à étage. On s'y sentait pas bien. Monter les escaliers, vieillir, ça nous paraissait pas nous correspondre. Donc Martine a trouvé un terrain là, voilà, à la sortie de Jaïa, collé à la commune, mais on voit le panneau Jaïa, mais on n'est pas dans le village même. Et puis avec un espace de liberté assez vaste, parce que volontairement on a mis 2-3 belles baies vitrées pour pouvoir avoir accès directement sur la nature, parce que quand t'as bossé toute ta vie dans la nature, t'as envie de la garder un peu près de chez toi, voilà.
Ouais, effectivement, on a une belle vue sur les champs environnants, le paysage extérieur.
Oui.
On voit loin.
Oui, puis aujourd'hui encore, c'est pas très clair, mais on voit bien sûr à l'ouest le Mâconnais, on voit la Bresse côté Jaïa, on voit le Revermont et l'arrière-plan du Jura et des Alpes l'autre côté. C'est vrai que c'est assez sympa, ouais.
Alors Martial, tu es le cofondateur de la marque C'est qui le patron ? Avec Nicolas Chabanne et Laurent Pasquier, en tout cas tu es celui avec qui ça a pu fonctionner.
Oui, ben, l'idée principale, elle est venue de mes deux collaborateurs, de mes deux copains, mais le fournisseur de la matière première agricole du moment, j'expliquerai après, effectivement je suis bien l'intervenant principal. Ouais.
Alors avant d'aborder cette histoire, on va s'intéresser à toi, Martial.
Oui.
Est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Comment tu es devenu agriculteur ?
Eh bien, alors moi je suis le septième d'une famille de 8 enfants. Je suis un fils de quelqu'un qui a pas mal souffert. Il est né en 1912. Voilà, il y a eu la guerre de 14-18. Il a perdu son propre père, donc ça n'a pas été facile pour lui. Après, il y a eu un remue-ménage assez important qui a fait que c'est quelqu'un qui s'est marié tard, hein, après 39-45. Puis à l'époque, marié avec une plus jeune que lui, puisque elle avait 10 ans de moins. Donc, née en 1922, ma mère. Et derrière, il y a eu 8 enfants et je suis le 7e. Moi, je suis né, ils avaient déjà acheté l'exploitation à De Martin, qu'ils avaient acheté en 1956. Voilà, et moi, je suis né en 1959.
C'était une ferme traditionnelle, si je puis dire. C'est-à-dire avec plusieurs activités.
Oui. Ben, en Bresse, on est fin des années 50, il n'y a pas de souci. Hein. En Bresse, vous avez systématiquement un peu du lait, de la volaille, éventuellement un peu des porcs, mais beaucoup de volaille de Bresse, bien sûr. Il y a un vrai commerce de la volaille de Bresse, et par la ville qui vient chercher directement en ferme, et par les ventes de marché qui étaient quand même très très importantes à l'époque, avec beaucoup de faiseurs.
Ok, tu as grandi donc dans un milieu, un environnement agricole.
Voilà, donc c'est vrai que j'étais très actif et que je participais, j'étais toujours dans les pattes et de mes frangins et de mon père, et très vite j'étais passionné très très tôt, et c'est vrai que très vite j'ai participé à la vie de la ferme, et c'était, allez, je vais oser parler un truc de jeune, hein, c'était un vrai kiff pour moi, quoi, c'est sûr.
Ouais. D'accord, donc plutôt une vocation, un métier passion.
Oui. Ouais. Mais vraiment.
Ça se sent tout de suite. Donc du coup, tu es parti en internat.
Donc je suis rentré à l'internat au LAM, au lycée agricole de Montmoreau. Et j'ai fait ma formation agricole, toute ma formation agricole là-bas. Voilà, j'y suis ressorti en 1976. Voilà.
Et après ?
Eh bien après, on bosse, hein, pendant, on travaille. C'est-à-dire que pendant les week-ends, les vacances, à 14 ans, vous avez le droit de grimper sur un tracteur, vous avez le droit d'aller donner un coup de main, vous avez le droit de bosser, vous montez sur un escabeau, puis vous vous cassez pas la figure, parce qu'on vous a appris à monter un escabeau. Puis ben vous travaillez, puis vous bricolez, puis vous faites une petite cagnotte, et puis vous êtes devenu autonome, puis vous avez envie. Moi j'ai bossé, et dans l'exploitation familiale, et dans une ETA, une entreprise de travaux agricoles, et puis mon père m'a donné la possibilité de faire mon petit atelier, tranquillou, voilà, et c'est comme ça que j'ai démarré, profiter de ma jeunesse malgré tout, et puis d'un autre côté, pouvoir donner un gros coup de main dans la famille et avoir son autonomie économique.
Et donc ton lancement dans la vie professionnelle, ça s'est fait au sein de la ferme familiale ?
Oui, ben, c'est-à-dire que mon père, comme il était âgé, imaginez deux secondes, hein, je suis né, il devait avoir 47 ans. Donc quand j'ai 20 ans, il en a 67. Forcément, c'est urgent de taper dedans et de d'aider, même si les frères viennent donner un coup de main, les sœurs un peu moins, parce que aussi la dernière a aussi beaucoup participé. Puis après, les frangins donnent des coups de main le week-end, le machin, donc on se débrouille pour que ça fasse, mais ça va être urgent de prendre leur lait. Puis d'un autre côté, ben, son épouse a 10 ans de moins, donc c'est pareil, pour que ça fasse, ils vont arrêter en même temps. Moi, 1976, j'arrête l'école, 1979, j'ai eu 20 ans, je suis en train de regarder sérieusement, c'est possible, la majorité est arrivée à 18 ans, hein, il y a quelques temps déjà. Et puis j'ai rencontré Martine en même temps, donc, enfin un peu avant, mais on s'est mariés en septembre 79, et finalement on s'est installé, je me suis installé, moi, à l'automne 79, voilà.
D'accord, effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de Martine, suis accueillie par Martine et toi, qui n'est pas très loin.
Oui.
Et qui a un grand rôle.
Ah, j'en parlerai parce que c'est plus que de l'admiration.
C'est de l'amour.
J'en parlerai tout à l'heure. Forcément.
Bon, revenons donc à cette exploitation que tu reprends. À l'époque, elle était constituée...
À l'époque, c'est une petite exploitation traditionnelle de Bresse. Il y a une trentaine d'hectares. Un peu de lait. Il n'y a toujours pas de quota. Et puis, mes parents avaient arrêté la volaille parce que mon père fatiguait. Mais bon, un peu de la viande. C'est-à-dire, il y a un croisement industriel sur les vaches où tu ne gardes pas les veaux, mais tu les emmènes, les bestiaux, jusqu'à ce qu'ils soient bons pour faire du steak. Et puis un peu de céréales, polyculture élevage, voilà. On va l'appeler comme ça, parce que c'est aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que vu les tailles qu'elles ont pris, mais on est porte des années 80. Quoi.
Et également un petit peu de culture.
Oui, il y a l'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a les cultures pour la volaille, pour les vaches. C'est un peu l'époque de... Voilà, on a déjà les démarrages, des premiers arrivages de bâtiments hors sol, complètement intégrés, où l'aliment vient d'ailleurs. Compte tenu de l'âge de mon père, ça c'était pas possible.
Et toi, donc, quel projet tu as pour cette ferme?
Moi, je suis passionné de vaches. Alors, je suis parti à Olam, donc forcément, le lycée agricole de Montmoreau, on est dans le milieu des vaches du lait à compter déjà. Ma formation, elle est spécialisée élevage, laitier. Alors, bien sûr, on fréquente un peu les cultures, mais moi, j'ai une très bonne formation à l'époque. Je connais parfaitement le monde animal et j'ai une formation d'éleveur producteur de lait.
D'accord. Et donc là, Martine te rejoint.
Oui.
La famille
s'est grandie. On est en 79. Ma première fille est née en 1980. Derrière, mon fils en 81. Elle était secrétaire de mairie à l'époque, Montmerle-sur-Saône, donc par à côté de Martin. Il y a un peu de kilomètres. C'est compliqué. Donc elle se met un peu en disponibilité. On avait déjà un peu le droit au niveau de l'administration. C'est possible de sortir un salaire autrement, donc assez vite. On se dit qu'il faut faire différemment. L'avantage de Martine, c'est qu'elle connaît pas les travers de nos métiers ou les grosses incidences qui peuvent arriver, mais c'est quelqu'un de très courageux au départ, qui a une bonne formation économique, ça aide sur les documents, ça aide sur les projets, on partage les projets en commun, on partage tout, fait beaucoup d'administratif en plus, parce que le secrétaire de mairie est un peu habitué à toucher à...
D'accord, et donc là, les premières années, ça se passe
bien. Les premières années, c'est assez facile parce que vous tirez, vous faites un plan, à l'époque, vous faites des plans de développement, ça s'appelle, vous tirez un plan qui correspond à vos investissements, vos financements, et puis derrière, si vous produisez, ça passe, quoi, et donc ça passe. Donc nous, on achète en 79, je loue les terrains, mais j'achète la totalité des bâtiments, et comme ça me permet d'attaquer aménagement. Donc première stabulation libre, Caillebotis, en 1981, voilà, salle de traite.
Est-ce qu'on peut parler de spécialisation ou...
Oui, si, l'exploitation, elle se spécialise dans le lait jusqu'à ce que on nous coupe un peu notre envie, puisque les quotas sont arrivés en 1983. Et mon plan de développement était de 80, donc normalement il était prolongé jusqu'en 85. Et là, l'administration déjà me le bloque. Mes remboursements continuent à progresser, mais mon volume de lait est bloqué. Donc très vite, il faut réagir et on a démarré. Enfin, moi j'avais déjà jeune, chez mes parents, j'avais un atelier de canards industriels et donc je démarre une petite production de canards industriels pour compenser les pertes du troupeau laitier. On fait une deuxième production qui vient s'asseoir en termes de travail et qui vient compliquer encore la situation un peu plus. Oui.
Justement, en termes de travail, ça représente...
Comme c'est pas un investissement, c'est un investissement temporaire, provisoire pour faire de l'argent, vous y mettez pas trop d'argent. Donc c'est une époque où on porte beaucoup, quoi, où les sacs de 50 kilos sont courants et où arrivent très vite, heureusement, les premiers roomballeurs, mais les petites bottes carrées par milliers sont d'actualité. 83-86, là, on révolutionne tout ça, c'est-à-dire il y a des investissements collectifs, il y a les cumas sont arrivés, après l'ensilage est monté en puissance au détriment du foin, mais moins de manutention. On a un des rares métiers où on a une évolution technologique et technique sur 50 ans qui a été exceptionnelle, quoi, vraiment. Mais vraiment. Enfin, vous montez dans un tracteur aujourd'hui avec les tableaux de bord.
Un peu de Ferrari.
Je sais pas. On va dire ça. Je sais pas si c'est de la progression ou du modernisme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est du modernisme qui nous a quand même permis de progresser, hein, qu'on le veuille ou non.
Et donc, 86. Donc 83, un tournant avec les quotas. Oui, 86, oui. Ça s'accélère un petit peu.
C'est un peu plus compliqué, oui. Le seul souci qu'on a eu dans ces années-là, c'est le taux d'inflation et c'est surtout les taux d'intérêt. Moi, je me rappelle, on s'arrachait les cheveux pour essayer de financer des drainages ou même un peu du matériel. Des taux d'intérêt à plus de 10, mais on en a eu. Je pense que tous les gens de mon âge, on a connu, quoi. Le pire que je suis monté, ça doit être un peu plus de 13. C'est colossal. On passait sa vie... rendez-vous chez les banquiers pour essayer d'y négocier et d'y gérer. C'était compliqué les financements, c'est à l'époque.
D'accord. Et donc, année après année, les choses sont devenues de plus en plus difficiles.
Le constat, c'est que beaucoup de gens, il y a eu des plans sociaux sur les quotas qui sont arrivés. Donc, il y a eu un plan social sur l'aménagement des quotas, des cessations laitières d'activité beaucoup pour éviter les stocks européens. Déjà à l'époque, il y avait des stocks colossaux de beurre, de poudre qui étaient, pour certains, étaient congelés. Enfin, ça coûtait une blinde à tout le monde. Et donc, des réaménagements et des volumes de lait qui sont passés d'une maison à l'autre. Et donc, il y a eu une croissance assez importante des exploitations. Donc l'exploitation, elle passe très vite, d'une trentaine d'hectares à 45, puis après à 50, puis 60, puis voilà, et puis elle continue à progresser, quoi.
Et au niveau rémunération
La rémunération, elle n'a pas progressé. La rémunération, on l'a adaptée pour que... Vous savez, je la résumerai assez vite, sur une carrière de 42 ans et demi, c'est à peu près un tiers du temps, j'ai passé ma vie à essayer de clôturer à peu près. Un tiers du temps, on a clôturé sans trop de difficultés, se rémunérer un peu comme on pouvait. Et puis un tiers du temps, on s'est bien rémunéré. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs, les accidents permanents, des cours, des surproductions, mais aussi des impacts politiques sur les contractualisations. Parce que quand on change de pouvoir ou quand on change d'orientation politique, derrière, on change de contractualisation, on change d'allié naturel de nos contrats, et forcément ça, il y a une implication qui est grande. Et puis il y a aussi une pompe concurrence interne qui est terrible entre les zones qui sont en train, qui ont la capacité, qui ont des opportunités de développement. Par exemple, arrive le tourteau de colza, de soja, des États-Unis, du Mexique, d'Argentine, partout. Il arrive par la mer, bah forcément la Bretagne est mieux placée que nous, hein, où on est situé. Les coûts sont supérieurs, donc les industriels en bavent un peu plus. On a une zone de développement où il y a beaucoup de monde, donc il y a un impact économique aussi plus important. Il faut payer les salaires peut-être un peu plus, etc., etc. Et on crée des divergences et on voit nos outils de production et même nos volumes de production un peu partir sur le côté Grand Ouest, quoi.
Et donc là, on avance un petit peu dans le temps.
Oui.
Je crois qu'à un moment donné, tu crées une coopérative.
On parlait des accidents de prix et à un moment donné, donc forcément, tu l'ouvres un peu de temps en temps. Tu as le niveau pour l'ouvrir. Alors, je suis en réunion le bassin de production du Brest-Val-de-Saône et il y a un syndicat de Brest de vente à l'époque. C'était un monsieur Rion qui était... La ferme était originaire de Vézine, qui était président. Et puis j'interviens parce qu'il y a une histoire, il y a une incompréhension totale sur les prix. Et donc finalement, en fin de réunion, je me trouve... embarqué comme administrateur stagiaire et puis élu l'année d'après avec d'ailleurs un autre copain qui s'appelle Christian Brouillard. Et on est deux à rentrer cette même année en 1983. Et très vite, donc je m'implique dans la filière laitière et puis les quotas s'installent et puis ça devient plus compliqué. La restructuration des entreprises à l'époque fait qu'il faut s'y intéresser et donc on crée notre propre outil. Le syndicat se tourne en coopérative de vente pour pouvoir contractualiser, pour pouvoir faire la vente en direct auprès des outils industriels parce que celui-ci s'éloigne du secteur. Je suis membre historique de la création de la coopérative, puisqu'on était sept. Le président à l'époque, c'était M. Blanc. Je suis le jeune de la bande, mais on est deux, trois jeunes à accompagner le mouvement. Et puis, on ne l'a jamais quitté.
Alors, comment ça marche, une coopérative?
Une coopérative, c'est simple. Hein, c'est qu'à un moment donné, on met les produits en commun pour essayer de l'offrir à une contractualisation. Donc, il faut que tout le monde s'entende sur l'aspect transport, l'aspect qualité, l'aspect production, le coût de production, etc. Donc, c'est jamais facile. Mais on essaye. Et de toute façon, il faut se dégager une majorité relative. Hein. C'est bien un vote à la majorité relative. Il y a une assemblée générale. Et on contrat des études qui sert à être collaboratif et qui sert à essayer de se résister et de partager. Et donc la coopérative Brest-Val-de-Saône, elle a été vraiment créée que pour essayer de résister et aux négligences du marché national et à la pression permanente du monde industriel. Puis en 91, j'en deviens président et on est en 90 aussi associé à une union de coop pour tout ce qui était gestion administrative. Donc le côté administratif, le côté salarié était tout délégué à l'URCVL à l'époque. Donc cette union régionale des coopératives qui permet de mettre en marché le lait au mieux. Hein. On fait au mieux. Hein. Voilà, on ne dit pas qu'on fait parfaitement, loin de là.
Et comment on trouve ses clients?
Eh bien, les clients, il faut aller déjà les chercher, il faut se les offrir, il faut aussi se les offrir par l'exemplarité, c'est-à-dire un groupe de producteurs qui essaye de faire de la qualité, ça vous dit rien, vous, un litre de lait, c'est un litre de lait, mais il y a de la matière grasse dedans, il y a de la matière protéique, il y a de la qualité, il n'y a pas de germes, il n'y a pas de spores, on arrive à en trouver. On va arriver vite en 2016, puisqu'il y a eu plein de bouleversements, il y a eu plein d'économies, il y a eu plein de fermetures d'outils où on a été, nous, impliqués. Hein, la laiterie d'Argie qui faisait de l'émental, elle est rachetée par Lactel. Ils ont piqué les clients finaux, puis ils nous ont dit au revoir, messieurs, dames, merci, au revoir, on ferme. Voilà. Donc, il faut retrouver sans cesse des débouchés, se réadapter. Et c'est comme ça qu'on est devenus, nous, des marchands de lait. Où on proposait notre propre lait, mais avec une organisation de ramassage et de transport et d'accompagnement technique aussi des élevages. On essayait de faire au mieux. L'Italie, qui est notre voisin, rentre dans l'euro, donc c'est déjà mieux sécurisé. Il ne faut pas oublier que l'Italie, quand elle consomme 100, elle en produit à peine 60 hein, dans litre de lait. Voilà. Donc il y a un marché qui est intéressant, européen, voilà. Et on trouve des débouchés parce que les autres n'en veulent pas. Hein. Les marchés qu'on nous propose, on ne peut pas gagner notre vie. On va disparaître, c'est indéniable. Donc on essaie de trouver. Et finalement, on trouve en 2013 un marché qui est assez intéressant. Le prix moyen français est entre 30 et 32 centimes. On trouve à vendre 34 centimes départ ferme. Ça se passe plutôt pas mal. Et donc 14, tout va bien. 15, tout va bien. Et on arrive en 2016 où là, c'est pas mon industriel qui a un problème. C'est pas le marché qui a un problème. C'est un désaccord politique global entre la France qui ne livre pas des bateaux à la Russie qui rétorque « je ferme mes frontières au lait européen, je ferme mes frontières au port » et là, là, le jeu de domino se met en route et tout se casse la gueule.
Donc en fait, oui, là, on est dans un marché mondial et qui, à la moindre fiction, a des
conséquences. On est déjà dans un marché européen qui, géopolitiquement parlant, n'est déjà pas très assuré. Très vite, on a été, nous, le dernier maillon... adaptable à la vie sociale française. Hein. On a gardé une mutualité sociale agricole. C'est assez surprenant de raconter ça aujourd'hui. Hein, mais collectivement, le monde agricole a pesé énormément, mais on a donné énormément. Quoi. Donc, vous pouvez bien comprendre que moi, de savoir qu'il y a des exploitations dans la précarité aujourd'hui, c'est insupportable pour mon cerveau. Quoi, voilà. Donc, juste pour dire, donc, on arrive en 2016, et en 2016, donc le marché il passe de 34 centimes en janvier, moi pour mon cas, on est en avril-mai déjà 26, et puis on sait que ça va continuer à descendre, et il faut trouver des solutions. Et c'est là où on se met en action à trouver des solutions. Voilà. Et c'est là où on sort une feuille A4, hein, double face, et, voilà, où on se présente, et on présente des exploitations, il faut se bouger... Et on essaye de vanter les mérites de la Bresse, quoi. Hein. On a des vaches qui pâturent, on est dans une zone où il y a encore beaucoup de prairies, on est autonome alimentaire, on est aux portes de Lyon, il y a des consommateurs, et puis on est prêt à s'adapter, à bouger le modèle. On distribue ce flyer dans tous les grands magasins. On vient sur Montrevel, la Morvan-en-Bresse, Saint-Trivier, on parle de côté, Bourg, et puis on revient, on passe à Vonneau. Et le lendemain, et donc le matin, je suis avec un de mes collègues, l'après-midi avec je vais les nommer tous les deux, et Wilfried et Aurélie, ils sont tous les deux avec moi. Enfin, chacun leur tour sont avec moi, et on fait la totalité. Les endroits, on est reçus à l'accueil à peine, et puis il y a des endroits, on rentre dans des discussions assez sympas. Et voilà, je tombe sur Avonneau, et Avonneau, je tombe sur Monsieur Darmezin à l'époque, qui me dit... Non mais c'est insupportable quoi, moi je traverse la place et j'ai un chef étoilé et vous à 15 km de là, c'est... voilà, et ça va à la région, c'est de l'Ost et ça va au national et voilà, et c'est comme ça qu'est né le tout début, genèse du truc quoi, non, on travaille beaucoup après. Et on veut juste comprendre quoi, moi si on m'explique qu'il n'y a pas de solution, ok, mais moi je pense qu'il y en a des bouts quoi, et qu'on peut travailler. Puis entre temps, on est en 2016, notre rêve il n'était pas de suivre de ces clipatons, dans un premier temps c'était de dire, puisque les MDD démarraient, les marques distributeurs, pourquoi on ne fait pas une marque distributeur Rhône-Alpine ou machin, et qui soit distribuée en région, et que voilà, c'était un peu ça mon imaginaire, on cherche, hein, on cherche, on se tâtonne et on cherche.
À ce moment-là, donc au niveau de la coopérative, vous voyez que ça va pas le faire.
Moi, je vois qu'une chose, c'est qu'on n'a pas de solution et que la disparition fait partie de l'absurde. Quoi. Ça gêne personne. Il y a à manger dans les rayons. Ouais, je sens bien que ça écorche quelques-uns, mais pas tant que ça. Quoi. Donc je sens bien que si on trouve rien, voilà, faut faire autrement. Faut ouvrir l'état d'esprit et faut provoquer un peu les choses. Et voilà. Et donc je vous dis, cette chance-là, c'est d'avoir eu cette rencontre où là on va monter au niveau national et là où Ma connaissance du milieu laitier fait que dans le questionnement avec, pour ne pas le nommer, Marc Delage, lui c'était vraiment quelqu'un de très atypique, l'humain en priorité, l'entreprise. Donc il est intéressé par vouloir travailler. Pour créer un produit, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'abord la production, ça y est, elle est là. Bresval de Saône est en difficulté, 26 000 tonnes, 26 millions de litres de lait, et on est en grande difficulté. Il faut trouver le transport. On l'a, nous, on a notre propre structure, donc l'entreprise Duranceau, la propre structure de collecte. On sait faire ça. Et puis derrière, il faut transformer du lait pour en faire quelque chose avant de le mettre en marché. Et alors, il faut trouver le marché qui, lui, va correspondre. C'est la case finale, c'est la grande distribution. Hein. Moi, je n'ai pas choisi. C'est les Français aussi qui sont rentrés dans les distributeurs, chez les distributeurs. Hein. C'est un constat. Majoritairement, le lait passe. Les produits de grande consommation, les PGC, les produits de grande consommation, eux, passent par la grande distribution beaucoup. Et notre produit fait partie des produits de grande consommation. Il faut trouver l'industriel. Et donc, Marc Delage qui me dit, on peut peut-être vous aider, nous, machin. Mais... Et puis, entre-temps, il me dit, nous, on a... Ces jours-là, on avait. Ça vous parle, ça, Nicolas Chavannes? J'ai dit non, moi je connais pas Nicolas Chavannes. Il me dit les gueules cassées, les légumes moches. J'ai dit si, j'ai vu deux, trois articles. Oui, c'est le gars qui essaye de trouver de la valorisation sur ce qu'il ne faudrait pas acheter pour que les producteurs soient mieux valorisés. Il me dit ça serait bien que vous rencontriez. Mais dans un premier temps, que Marc Delage, je vois avec l'entreprise LSDH si c'est faisable. Voilà. On me rappelle en me disant j'ai quelques dates clés. 27 juin, rencontre avec le groupe Carrefour Marc Delage. 30 juin, assemblée générale de la clôture des compte de l'année d'avant, donc de 2015, où ça s'est super bien passé. Donc on clôture un bon résultat, mais on est dans une merde noire parce qu'on est au mois de juin et on est payé 20 centimes et il manque 120 euros par jour par personne dans les exploitations présentes. Quand vous êtes trois, c'est 360 euros par jour. Donc ça fait un billet de 10 000 euros à la fin du mois. Ça va à une telle vitesse que...
Pour 20 centimes, c'est ça?
On est descendu. Oh, ça doit être autour de 21, mais ouais.
20 centimes.
Entre 20 et 21 centimes. Le prix de rupture doit être proche de 30. Et puis après, t'as pas de salaire aussi. Hein, donc, et puis après, il y a les charges qui s'accumulent. Puis après, il y a les trésoreries qui sont effondrées.
Tout se tient. Et oui. Tu parlais d'effet domino.
Ça va très vite. Moi, je sais que grosso modo, en juin, je sais que c'est sûr qu'on passe pas Noël, mais je suis sûr que novembre est un moment clé quand même. Il faut aller vite. Ouais.
Alors cette rencontre avec Nicolas Chavannes.
Alors je trouve une salle, donc on n'en trouve point, Bagé, machin, etc. C'est un peu compliqué, donc on se rabat sur le canton de Pont-de-Vaux, il y a beaucoup de producteurs, et la mairie de Pont-de-Vaux nous prête leur salle de mairie, là, ça, elle s'appelle la salle bleue, c'est assez marrant. Donc le matin, plus tôt, on a une rencontre avec le groupe Carrefour, LSDH, pour voir la genèse un peu du projet. Alors on me dit... Il y a ce fameux dossier de lait là que Nicolas Chavannes a acheté. Donc il a balancé son questionnaire, ça a plutôt bien répondu, ok.
Quand tu dis balancer son questionnaire, c'est que...
Je vous expliquerai un peu, après on rentrera dans le fil du sujet.
D'accord.
Puis après, on nous avait quand même prévenu que ça serait un petit projet, quoi. Donc le questionnaire a été préparé par Laurent Pasquier. Il était très bien préparé par Laurent avec les questions. Est-ce que vous voulez du lait international ou du lait français? Donc si c'est français, c'est plus cher. Est-ce que les vaches pâturent? Oui, donc c'est un peu plus cher. C'est normal qu'un paysan il prenne quelques jours de vacances, oui, c'est un peu plus cher. Les OGM, parlons-en, puisque le groupe Carrefour m'avait dit, de toute façon, si on démarre, il n'y aura pas d'OGM. Donc, ok, donc, allez, pas d'OGM, donc c'est un peu plus cher. Et donc, en bas, on voit qu'au questionnaire, ils sont nombreux à avoir répondu, et ça sort pour nous 39 centimes, vendu dans les magasins 99 centimes. Et 39 centimes, c'est un truc de fou, quoi. Moi, à 34, on arrivait à vivre, on disait, on a une petite chance de payer, donc on disait, allez, si ça fait 5-7 millions, ça nous permet de payer un peu des dettes. La MDD, c'est un marque distributeur. Si le groupe Carrefour sort sa marque Carrefour et qu'ils nous prennent le reste, on est à l'équilibre de nos exploitations. Allez, on va en baver, mais ça va tout se négocier.
Ça fait un petit aperçu
On donne une ligne, on donne une ligne d'espoir.
Voilà,
l'entreprise, elle a la trésorerie. Après, c'est une histoire d'accord, et puis on a des taux d'intérêt qui sont bas, donc déjà. Et puis notre fournisseur principal d'argent, c'est le Crédit Agricole. On se connaît parfaitement, la coopérative, la banque. Il y a un délégué exprès qui est délégué à l'époque. Merci Patricia Pont. Moi, faut oser le dire aussi. Des moments, il y a des gens qui comme ça sont intéressés parfaitement au dossier et l'ont. J'ai une forme de reconnaissance du rendu possible.
Une espèce de chaîne qui s'est installée comme ça.
Vraiment.
Chacun à leur niveau essaye de pousser dans le bon sens.
Oui.
Quoi. Je veux juste revenir sur la rencontre avec Nicolas Chavanne.
Le 6 septembre, donc je dis bien, on a une première discussion entre la création du possible, entre le groupe Carrefour, LSDH essentiellement, et puis à quel moment nos contrats vont basculer chez LSDH. Et,
vous êtes que tous les deux ou vous êtes plusieurs?
On est 4-5 délégués, donc le bureau de la coopérative. Chez LSDH, il y a donc bien entendu Emmanuel Vastex, son dirigeant, le DG, Philippe Lesseur et une équipe commerciale, un peu juridique aussi. Voilà. Il y a Marc Delage qui représente le groupe Carrefour. Et on est rentré dans un dialogue là-dedans. Et donc on est encore en local, hein, on est dans le monde rural.
Oui. En fait, tu arrives à les emmener sur le terrain.
Oui, ça ne pouvait pas être autrement. Et on avait aussi prévu des visites d'exploitation l'après-midi. Donc à 11h, on voit rentrer, arrive Nicolas Chavanne et Laurent Pasquier, quelqu'un très courtois, blagueur du Sud aussi un peu, et qui détend l'atmosphère. Ça faisait du bien parce que ça commençait à devenir tendu. Moi, j'avais un peur qu'on allait encore morfler longtemps, parce que... Et puis Nicolas arrive, Laurent fait le bilan du questionnaire, ça a super bien répondu, donc les 99 centimes c'est ok, la couronne francilienne a coché, parce que c'était là-bas que l'enquête avait été faite beaucoup, ils sont admiratifs, ils sont prêts à marcher, voilà, ça va fonctionner.
Et tu y crois à ce moment-là? Comment tu réagis?
Je suis quand même toujours tendu, mais M. Marc Delage dit, le projet il va faire 5-7 millions, et Nicolas me dit, mais non, mais 5-7 millions, mais vous aidez personne, on démarre le truc, moi je suis sûr qu'on va tout déchirer. Puis Emmanuel, si vous prenez pas tout, on a aidé partiellement, on va pas aider ces gens, ça change rien.
Non, il le met au pied du mur, c'est donc, tout, rien.
Si ça y va. Emmanuel est aussi tenté parce qu'il sait qu'il a pas non plus des bassins d'approvisionnement à l'époque. La production française, elle est très contractualisée. Tu lâches pas du lait comme d'un industriel comme ça, tu changes pas de main comme ça. C'est pas un caillou que tu déplaces d'un voisin à un autre. Donc c'est peut-être aussi une opportunité pour lui, on est organisé. Il y croit aussi beaucoup. Et puis Nicolas là, arrive à bien nous le vendre et à un moment donné, il dit allez, vous allez, monsieur Delage, vous allez bien arriver à passer le reste dans une MDD, on va bien se débrouiller, on va trouver des solutions. Puis nous, on accepte après Val de Saône de participer à l'accompagnement des kilomètres supplémentaires. Tout le monde fait chacun son bout de chemin dans son maillon, sans jamais rien signer, en se respectant, à créer un truc qui va fonctionner. Je dirais jamais assez merci à ces personnes qui étaient autour de la table. Mais
chacun fait un petit pas en avant.
Je pense qu'on a tout fait aussi pour que ça soit acceptable de tout le monde. Et sans jamais remettre en cause le lendemain matin, ça a été ça la déclic. Moi, ce que je retiens de Nicolas, c'est cette capacité-là d'avoir à faire tourner le débat à un moment donné. Puis après, il y a eu une deuxième intervention qui est plus personnelle où il m'a dit « Je te préviens, il faut que tu libères du temps machin maximum parce que ça va déchirer hein, la com. On va faire rentrer les citoyens dans ton bâtiment, dans ta vie. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Il faut absolument que tout le monde sache tout. » Voilà.
Lui, son objectif, c'était les consommateurs. Quoi. C'est les ramener, les embarquer.
Son groupe, c'est qu'il l'avait vu. Il avait des gens. Lui, il y avait déjà un petit moment qu'il voulait essayer de créer... Les gens qui étaient dans les magasins se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas à lire le comportement des produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le produit, comment il est fait. Puis lui avait une méthodologie assez logique de dire c'est pas compliqué d'expliquer la vraie vie, quoi. Il suffit juste de le dire. Mais ça pouvait pas se dire parce que c'était presque incendiant pour les gens qui travaillaient en bas. Je suis désolé, hein, c'est un constat quand même, hein, c'est une réalité ça. Les plus basses retraites nationales, on les connaît, hein, les femmes d'exploitants. Et elles ont bossé
toute leur vie.
Ça va plus être. Ça va plus être le cas dans 20 ans, mais pour le moment, c'est le cas. Hein. Et donc, c'est ça là, le truc, c'est que c'est ce dialogue-là de faire rentrer le citoyen qui lui avait répondu au questionnaire. Et voilà. En même temps, il continue, et puis moi, j'en avais presque besoin, j'avais porté tout le monde. J'avais eu la trouille de ma vie de perdre des... Vous savez, il y a tellement des gens qui quand ils doivent de l'argent, c'est compliqué. Quand la vie sociale se lâche, c'est compliqué. Mais quand le niveau familial commence à se déchirer pour l'argent, c'est encore plus compliqué. Et j'avais tellement peur d'en perdre un dans l'équipe de producteurs dont j'étais président du groupe, ça me hantait presque ça.
Donc... Quand tu dis perdre, qu'on dise les choses clairement, c'est un suicide. Tu craignais un suicide d'un agriculteur.
Donc, honnêtement, je pense que j'aurais été incapable de continuer l'aventure si j'avais eu ce type de truc. Si j'avais vécu quelqu'un qu'on se tutoyait, qu'on parlait de nos enfants, parce qu'on était quand même nombreux à avoir les enfants les mêmes âges, mais le fait d'arriver aussi proche de la lucarne, du jour du tunnel, et c'était inenvisageable pour moi. Donc c'est ça qui m'a donné la niaque aussi, dire c'était un exutoire, me présenter à un journaliste, me ouvrir les portes, la réalité, et c'est ce qui me donne la niaque à ouvrir cette aventure au grand public. à prendre à bras le corps, à l'écouter, à l'observer. J'ai beaucoup observé Nicolas. Ok, j'ai pigé. J'ai beaucoup à apprendre, mais je vais apprendre longtemps. Et il va me dépasser encore longtemps, je pense. Et puis ben, on a chacun nos domaines bien partagés. Et on a un immense respect l'un pour l'autre. Donc, je pense que ça a complémenté le packaging. Voilà. Dire les mêmes choses, que c'est difficile, et tout en respectant l'autre, on a fait 90% du chemin. C'est ça, la grosse différence. C'est humainement, on s'est dit les choses aussi simples que ça. Personne n'a oublié, quoi, à ce moment-là. Après, on s'éloigne, ça arrive des gens nouveaux, faut recréer la jeunesse. C'est ça qui est très compliqué. La créer, on y arrive parce que tu as les bons éléments au bon moment. Quand elle grossit ou quand elle se complique, c'est ça qui est difficile.
Et faire durer dans le temps.
Ben, puis vous avez une personne nouvelle qui rentre dans le schéma. Elle n'a pas l'historique, elle n'a pas le vécu, elle n'a pas la souffrance, elle n'a pas la détresse de certains, elle a sa carrière et son application personnelle. C'est vachement compliqué, le monde de l'entreprise et le monde de la création de valeur.
Là, on est vraiment dans une histoire d'être humain, une rencontre. Moi, ce que je retiens, c'est au départ, il y a quand même eu ce questionnaire.
Oui. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Nicolas, il a déjà à l'époque, il a fait comprendre au distributeur que si les gens ne rentraient pas chez eux, c'est parce qu'il y avait peut-être plein de trucs qui n'avaient pas fonctionné ou qui avaient été oubliés. Et si vrai qu'un directeur de magasin, un directeur de plateforme, un distributeur, lui, son dialogue, il l'a avec l'industriel. Puis que l'industriel, quand il a observé ses charges, ses machins, il fait quoi ? Il se retourne sur le maillon d'après, puis il a plus sur la tête, parce que de toute façon, il n'a pas d'autre solution. Ce qu'il faut, c'est essayer de tenir. Et comme c'est délégué à quelques personnes et que ça se joue sur quelques personnes, eh ben c'est le marasme global du bazar. Donc il faut casser tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Les gens qui sont vos propres clients, qui vont répondre à dire oh, « Moi, je veux des fermes paysannes, je veux encore une agriculture française diversifiée, je veux une alimentation nécessaire aux Français, l'autonomie alimentaire, est prioritaire, le modèle aussi. Est-ce que moi qui rentre dans votre magasin à faire des achats, est-ce que je peux pas m'intervenir ? Et c'est là où ça change.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, le consommateur devient citoyen, consommateur, sociétaire, engagé. Et là, on a, c'est là la grande différence.
Oui, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que on fait rentrer le consommateur dans le modèle économique, c'est-à-dire qu'on l'écoute enfin, et on voit qu'il n'y a pas que les premiers prix qui l'intéressent, quoi.
Oui, mais c'est.
C'est aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ces prix ? Comment on fait pour que.
La première fois que j'ai rencontré deux sociétaires, moi, de mon exploitation, vous prenez les classeurs qui a l'économie totale de l'exploitation, puis vous les ouvrez. Alors, 2013, pourquoi on est parti là-bas ? Voilà, combien il manquait chez moi ? Combien il manquait dans le groupe ? Le prix moyen ? Les salaires moyens ? Le coût de production, etc. 14, 15, 16. Voilà, on en est au hôtel l'année passée. Voilà où on est en train d'arriver. Tout s'explique. Vous ouvrez, c'est écrit, c'est tamponné par le commissaire aux comptes de la coopérative, parce que c'est aussi un système coopératif qui clôture. Tout est écrit. Rien n'est triché.
C'est la transparence.
Mais il y a une transparence. Et quand on renverse, que tout d'un coup on met au centre d'intérêt et dire c'est normal qu'un producteur il puisse gagner sa vie normalement et qu'on l'annonce clairement, nous on annonce clairement le prix et c'est le consommateur, c'est lui. Et puis en plus, la marque lui appartient. Voilà. C'est qui le patron ? C'est le consommateur.
Quand on veut répondre à la question c'est qui le patron ? Le patron, c'est le consommateur.
C'est à la fois la genèse de la marque. Mais en plus, c'est contrôlé par lui. C'est-à-dire que lui s'invite dans la chaîne alimentaire. C'est le seul produit qui est comme ça. Hein. Après, il y a des organismes qui sont payés pour, mais là, c'est le seul. C'est le client final qui ouvre son frigo, qui met le produit dedans, qui lui-même monte dans le train, va voir l'usine, va voir le distributeur, vient voir les producteurs. Le premier allié qu'on a dans la marque, c'est qui le patron de tous les produits, c'est qui le patron, c'est le consommateur. Voilà. C'est le consommateur citoyen engagé. C'est ça qui est la différence.
Et en fait, oui, quand on achète un pack de lait, c'est qui le patron ? On a presque le visage de l'agriculteur derrière. Ben, il est incarné.
Oui, mais ça me fait sourire parce que certains ont mis des visages et ils correspondaient pas au lait. Donc je me méfie des visages qui sont sur les. Non, je veux dire, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est plus profond que ça. C'est le consommateur, quand il achète sa bouteille, d'abord il a l'impression que c'est la sienne, hein, déjà, puisqu'il y a participé à la création.
Oui, c'est vrai.
Il sait où va son argent exactement. Donc voilà, donc il faut le dire aussi, ce produit, il permet à tout le monde de gagner sa vie, ça marche. Voilà. Et ça marche, et ça aide, quoi. Et c'est pire que ça. C'est le produit Most qui a été créé depuis 30 ans, qui a été aussi bien impliqué dans la société, qui a permis d'impliquer tout le monde dans la société. C'est une réussite parce que quand on a enlevé toutes les promos, quand on a tout enlevé, c'est le premier produit en termes de vente nationale. Mais parmi ce marché qui reste là, c'est la première brique la plus vendue de France et c'est là qui est intéressant. Ça a permis aussi à l'ensemble d'avoir des conditions de relation contractuelle plus sereine, moins agressive et moins violente. Parce que j'ai pas entendu dire à un moment donné que quelqu'un a été expulsé de son ramassage de son lait depuis que c'est que le patron est intervenu un peu dans la bataille. Quoi. Depuis que le citoyen est intervenu dans la bataille. Donc ça, on a un effet citoyenneté, on a un effet consommateur qui est très très important. Enfin, pour moi, l'immense respect que je dois, c'est Nicolas, c'est sa façon d'aborder, c'est effectivement Emmanuel Vastès qui donne l'autorisation et qui y va et qui prend une croissance qui est assez colossale aussi. Et tant mieux qu'il continue à penser que le modèle français alimentaire, il y aura des gammes, il n'y a pas une gamme, on peut aller se battre sur un marché mondial, on a des marchés plein qui peuvent souffrir. Et puis on a ce respect entre nous, quoi. Donc c'est ça qui est colossal.
Il y a aussi une partie pédagogie, explication auprès des consommateurs. Récemment, en début d'année, vous avez fait beaucoup de
On
de
en
terrain.
A fait tout le temps. C'est-à-dire que les gens qui se sont intéressés à nous, moi, je leur dis, mais venez nous voir, vous êtes les bienvenus. On prend une demi-journée, on tourne, je vous fais voir des fermes, on sort les cahiers de comptables et on se met autour. On transmet. Ce qui s'est passé à Bresval-de-Saône, là, dans cette petit répertoire de la zone, c'est colossal. J'étais persuadé qu'il y avait 60% des exploitations qui étaient perdues. La totalité ont été reprises et sont reprises et continuent à être reprises par des gens qui produisent le lait, le même volume. On n'a pas un litre de lait supplémentaire. On a démarré avec 26 000 tonnes. On a 26 000 tonnes. Ça veut dire que quand tu es au juste prix, tu n'as pas besoin de prendre sa place sur un marché. Ce côté respectable, c'est pour moi la clé ultime.
Mais là, on a l'impression que voilà, c'est un cercle vertueux. Un bon modèle en apporte un autre, quelque part, au niveau des différentes productions.
Ça a permis aux exploitations de se rendre résilientes. Elles vont mieux s'adapter au modèle qui est en train de se préparer. Ça a permis ça a permis d'autres d'y croire. C'est-à-dire qu'autour de nous, Val-de-Saône, on a le modèle légumes. Ils ont beaucoup progressé, ils changent aussi beaucoup. On a plein d'autres modèles qui sont en train d'essayer de dire c'est possible, quoi. Et de nous rejoindre. C'est-à-dire que, par exemple, nos fournisseurs se sont organisés aujourd'hui. Il y a une usine qui est en train de sortir, transformer de la protéine française. On aura du local, là, du Made in Rhône-Alpes ou du Made in Grande Région, Made in France, de toute façon c'est déjà champion du monde parce que la protéine on va la chercher très loin. On est en train d'embarquer un projet qui est assez sympa avec des fournisseurs qui, comme nous, on s'est sorti de la mouise et qu'on est devenu leur client fidèle aussi quelque part. Et puis nous, ça permet d'une partie de nos exploitations où on fait des céréales, on fait autre chose, on fait des oléagineux, donc colza, tournesol, soja. Il sera transformé en local. Le tourteau, c'est une fois que vous avez enlevé l'huile, c'est le restant de la graine. Et ce restant de la graine, c'est des sources de protéines pour le monde animal, mais aussi pour le monde humain. Et donc, toutes ces sources-là, elles sont nobles, sont majoritairement importées, vont faire partie de notre zone. Quand vous avez des prairies et que vous avez des vaches, vous avez un stockage de carbone. Un stockage de carbone, c'est aussi la pollution automobile, la pollution d'activité humaine. Quand vous faites vivre quelqu'un correctement dans son milieu, il le dégrade moins. Mais c'est pire, il peut faire un deal pour l'améliorer. Voilà, le stockage de carbone, l'amélioration de l'équilibre alimentaire, le plus régional possible, ce respect de tous les uns les autres, et ça passe pour les légumes, ça passe, c'est valable pour tous les produits alimentaires et peut-être même plein d'autres services. Cet impact-là, il est hyper fort dans le monde rural, quoi. Quelqu'un qui a les moyens, quand tu lui fais prendre conscience, c'est plus les gens étaient éloignés du monde agricole, plus quand tu leur as expliqué, c'est ceux qui ont eu envie de vous aider, de t'aider, de te tendre la main et de dire non mais moi, donc s'il te plaît, je peux le faire. Il y a effectivement ce que veut nous répéter une société qui veut absolument être capitalistique, et on a quand même des chaînes de maillons complètes qui sont que capitalistiques. Et puis, il y a aussi des valeurs très humaines où ça passe aussi par une forme de répartition du capitalistique. Parce que si tu ne gagnes pas ta vie, bah forcément, tu ne fais pas gaffe. Bah, tu essayes de trouver pour rabioter. Tu ne t'occupes pas de savoir si ça détruit ou ça ne détruit pas. Tu essayes de survivre. Tandis que quand tu fais un deal et que tu dis « je peux aller là, et si toi tu m'aides à aller là, je suis à peu près sûr de pouvoir y aller », Quand tu as expliqué à quelqu'un que ça fait du bien, on est dans son territoire, on peut gagner sa vie, on peut respecter l'autre, on peut lui ouvrir ses portes. Et c'est cette capacité-là à Nicolas de dire, ah non mais toute notre société française, enfin on est au pays des chefs étoilés quoi.
Voilà, qui aiment cuisiner avec des bons produits locaux, qui aiment aussi faire la promotion de leurs produits qui sont autour de chez eux. Une dernière question concernant la communication, j'ai noté que Nicolas utilisait souvent des phrases choc. Notamment celle permettre à ceux qui nous nourrissent de se nourrir. Personnellement, moi, je l'ai trouvée très, très forte. C'est peut-être ça aussi force de ces qu'il patron, c'est de dénoncer des vérités qui sont tellement évidentes qu'on les a presque oubliées, nous, en tant que consommateurs. Et dit, bah oui, effectivement, on ne va pas laisser mourir ceux qui sont à côté de chez nous et qui nous nourrissent.
Il a dit une autre phrase choc qui est intéressante, c'est que la carte bleue est plus importante que le vote. Voilà, il a complètement raison. Ce qui s'est passé aussi, et il a raison, Nicolas, de le dire comme ça, c'est qu'à part que ça se faisait en silence, quoi, parce que le monde agricole, on a été de la chair à canon en 14-18, et puis tout doucement, on a diminué en nombre, mais... On n'a jamais été capable de prendre l'autorité de la parole, quoi. Ce qui aurait dû se faire par, alors je vais être un peu dur, mais ce qui aurait dû se faire par les présidents des très grosses coopératives, c'est tourner en espèce de machine infernale à essayer d'adapter les modèles qui ne se sont pas adaptés, qui ont plutôt été destructeurs qu'adaptation, quoi. La grande chance qu'on a avec cette aventure, c'est que monsieur et madame tout le monde devient collectif. C'est pas les grands contre les méchants, c'est pas les distributeurs contre les machins. C'est pas vrai, il y a des gens très bien partout.
Je voudrais juste revenir aussi sur les ambassadeurs qui font partie du collectif
oui,
C'est qui le patron, des consommateurs ambassadeurs. C'est aussi une force du modèle de communication. Ah,
c'est-à-dire, on a eu une masse de gens qui ont pris un euro, puis qui sont devenus, puis qui ont dit, ben tiens, moi je suis dernière année d'études, machin, je viendrais bien travailler chez vous. Et nous, on s'est dit, c'est dommage quand même de se priver d'une dynamique et des gens comme ça. Et donc, ils font le lien entre la masse des consommateurs qui viennent donner des coups de main dans les magasins, qui viennent animer, qui viennent contrôler dans les fermes, qui viennent faire la relation avec le grand public, avec le pouvoir aussi. Que l'avantage, ça a permis de faire ce lien en toute sérénité. Et on trouvait sympa, ben moi dans ma région, c'est Elodie, quelqu'un qui a un parcours agricole, qui a été vendre des produits dans les exploitations, qui connaît bien le problème des exploitations. Pour certaines, en ont beaucoup souffert. D'autres, elle osait même pas proposer le produit à vendre tellement c'était compliqué ces endroits. Donc elle se dit, moi je passe du bon côté de la barrière et je vais faire ce lien en expliquant que de mettre le produit à la portée des consommateurs. Monsieur, vous faites du commerce, vous avez gagné votre vie avec le produit et en plus, certains consommateurs vont l'acheter, ça va correspondre à une éthique d'une partie de vos clientèles qui rentrent, qui iront peut-être voir ailleurs s'ils le trouvent ailleurs et qui vous le mettez pas ici. Voilà. Et c'est ce lien-là qui est important. Et en aucun cas, on parle de prix parce que de toute façon, il n'y a rien à tirer, c'est écrit par le consommateur. Voilà.
C'est pas sur le prix
non,
qu'on se
non, bat. C'est sur les valeurs. C'est sur les valeurs de cette exactement. Société qui a envie d'aider. Et puis, le fait d'aider cette masse de gens-là fait que, globalement, tu changes le comportement global. Et c'est là-dessus que Nicolas compte. Hein. On va vers une stabilité. On a besoin de renouveler la génération. On a besoin de faire attention où on va parce que la météo, le climat, l'adaptation des modèles, etc. C'est tellement complexe, c'est tellement compliqué. Si on passe pas par là, on va aller droit vers une cata. Voilà. À part je pense que tant qu'on ne l'aura pas vécu, on ne va pas le croire.
Moi, ce que je retiens, effectivement, c'est le collectif, les valeurs, la communication, le dialogue, qui a vraiment fait un peu le ciment entre toutes les parties.
Le collectif des consommateurs, c'est un sous-ensemble, c'est les clients. Voilà, nous, on en a 16 millions de clients, il y a 14 000 sociétaires dans les clients, qui sont aussi des sociétaires. Puis après, il y a 16 millions, grosso modo, de personnes qui achètent les produits, mais qui, par leur acte d'achat, orientent et modulent une stratégie française d'alimentation. Est-ce qu'on continue tous ensemble à réfléchir comment on fait pour aider la petite patate d'en bas? C'est difficile. Et puis même allons-y, osons nos chefs étoilés qui pourront faire un peu mieux et puis notre société française qui se modélise et puis les priorités aussi, à un moment donné il faut oser dire les priorités. L'intervention de l'homme, elle se sociabilise en collectif, je reviens à mon collectif. L'agriculture est impliquée dans ce collectif vraiment ancré, et c'est la particularité de la grande zone ici. C'est la deuxième densification de la population française derrière l'Île-de-France. Première surface de montagne, première surface de prairies naturelles, premier bassin des AOPAO. On a un savoir-vivre ensemble, on a deux options. Hein, où on se fait une confrontation et on fait disparaître les générations d'agriculteurs, on n'en parle plus. Où on crée des collectifs, mais si c'est la société citoyenne qui le fait, elle va lui correspondre. C'est aussi simple que ça.
Mmh. Et puis on fait vivre la
ruralité. Et dans la ruralité, on fait vivre le mien de collectif. C'est-à-dire celui qui a permis aux producteurs de rester unis dans une coopérative où on est tous ensemble, où les gars sont heureux, où ils travaillent, où les contraintes, ils les acceptent parce qu'ils font partie de leur milieu. Les astreintes, tu les supportes, mais qu'en plus tu gagnes pas ta vie, mais il n'y a plus d'enfants qui s'installent. On peut pas dire, tiens, je vais me faire souffrir 40 ans. C'est tellement insensé. Et c'est ça la différence de la démarche. C'est ce rapport humain de population entre elles et de discussion entre elles. Je suis... Mais ravi de pouvoir les avoir dans les magasins, dans les fermes, on se régale. Je vois leur âme d'enfant immergée, de voir l'évolution aussi technique, parce que l'animal, il est libre, il sort, il a des brosses, il a des couchages parfaits. Hein. Si on accompagne par l'économique correctement, dire vous voulez aller où, les enfants, tous ensemble, on va où? Quand on va où et qu'on donne du temps, on fait souffrir personne. Quoi.
Ensemble, on reste ensemble.
Ensemble. C'est aussi simple que ça. Le monde rural, il a besoin de l'intervention du monde urbain parce que la consommation, parce que la densité. Si on laissait les acteurs être responsables de leur secteur, anticipons.
Et une dernière petite question avant de terminer cette passionnante discussion. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde rural, peut-être en priorité, quoique tu viens de dire que voilà, les deux, monde urbain et monde rural, ils ont besoin l'un de l'autre.
Non, mais on a besoin l'un de l'autre parce que la surdensité du monde urbain fait qu'il y a toutes les complications qui vont avec. Et puis la sous-population du monde rural rend la complication des gens qui coûtent cher dans le monde rural disparaisse. Donc ça va du service public au... C'est une absence d'harmonie entre les deux qui fait que tout s'est compliqué. Je pense qu'il y a un manque d'humanisation globale qui fait qu'on réfléchisse tous ensemble. Et si cette société française qui dit non de temps en temps, on voulait l'entendre un tout petit peu pour dire alors peut-être qu'il faut bouger le curseur. Si on essayait, quoi. Voilà, tu vois.
L'audace, donner un peu plus d'audace.
Il y a plusieurs choses. Il y a l'envie, il y a l'audace, il y a l'autorisation A, avec un dialogue, un semblant de normalité.
Et donc la baguette magique, ce serait cette reconnaissance.
Le projet, moi je vais vous dire quand même, c'est assez simple. Toujours accompagner le consommateur. Et moi je suis surpris d'avoir passé un salon d'agriculture avec des gens qui sont venus. On a énormément partagé, avec un engagement de gens qui est assez colossal et ça progresse. Et c'est preuve que oui, notre société a envie. Donc à un moment donné, le mec a trouvé ses valeurs, c'est de lui aider à ce qu'elle soit une reconnaissance de sa valeur. C'est tout. Les consommateurs créent leur propre repère. Voilà, c'est ça la société consommation. La démarche, c'est qu'il est le patron sociétal. Mais elle est citoyenne. Hein.
On peut reprendre le pouvoir sur nos
se parler. Oui, mais,
décisions.
Oui, mais vous savez, vous pouvez parler à un mur qui vous dit « Oui, mais moi, c'est mon client final, je m'en fous. » Ou dire « Le client final, mais non, là, c'est le client final qui vient vers le producteur. » On a complètement... La mécanique est renversée. Quoi.
Bon, bah, merci beaucoup, Martial.
Merci Gaëlle. J'ai été très long.
Ça valait le coup. C'est ainsi que ce podcast s'achève. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous donne envie d'en parler autour de vous, de le partager. Rendez-vous dans un mois pour découvrir le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez consulter mon site www.glc-com.com/podcast. Ma page est dédiée aux notes, backstage, infos inédites sur ce podcast. À très bientôt.